Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. On souhaite l'Indonésie puisse inviter les membres de l'OCI à organiser une session spéciale. La réunion BLM Indonésie-Papouasie-Nouvelle-Guinée encourage le commerce entre les deux pays. Le président indonésien Joko Widodo est parti pour la Turquie pour assister au sommet de l'OCI. L'Indonésie participera au sommet de la Terre à Paris. Le patrimoine documentaire indonésien est reconnu par l'UNESCO en tant que mémoire du monde. Et enfin, renforcer la diversité à travers la commémoration de la journée de Nusantara 2017. Voici le journal complet. On espère que le gouvernement indonésien pourra inviter les pays réunis à la conférence de haut niveau de l'Organisation pour la coopération islamique, OCI, a exhorté les Nations Unies à tenir une session spéciale sur l'action unilatérale des États-Unis qui prétend que Jérusalem est la capitale d'Israël. Le président Joko Widodo et son entourage se sont rendus à Istanbul, en Turquie, pour assister à la conférence de haut niveau spéciale de l'Organisation de coopération islamique mardi. On s'attend à ce que la présence du président Joko Widodo puisse encourager les États membres de l'OCI à apporter la reconnaissance unilatérale des États-Unis qui affirme que Jérusalem est la capitale d'Israël lors de la session extraordinaire des Nations Unies. Comme ce qui est déclaré par le vice-président de la Commission Ang du Parlement, Hanafi Raïs, à la voix d'Indonésie de RRI après le dialogue spécial sur la mise en œuvre du concert national dans la galerie de Tri Prasetya RRI Jakarta mardi.
Keberangkatan Presiden Jokowi ke Turki dalam rangka memenuhi undangan Presiden Erdogan.
Le départ du président Jokowi en Turquie pour répondre à l'invitation du président Erdogan en tant que président de l'OCI cette année est important et très pertinent pour le président. Le président va en Turquie avec un agenda clair, pas seulement de critiques, mais je propose aussi que le président de la République invite les États membres de l'OCI à tenir l'Assemblée générale des Nations Unies pour tenir une session extraordinaire d'urgence pour contester la décision unilatérale américaine jusqu'à ce qu'il puisse lever l'accord de résolution que les États-Unis devraient abroger sa décision. Hanafi Raïs, le membre du Parlement de la fraction de Parti Amanat Nasional ou PAN, a également expliqué que le président Joko Widodo avait promis devant des dizaines de pays membres de la conférence de haut niveau Asie-Afrique qui a eu lieu à Bandung, Java de l'Ouest en 2015. Il a dit que les pays d'Asie-Afrique avaient encore de la dette pour libérer la Palestine. Alors, selon Hanafi, quand le président américain Donald Trump déclare Jérusalem comme capitale d'Israël, il faut s'y opposer car cela pourrait perturber la libération de la Palestine comme un pays indépendant. L'ordre du jour annuel de la réunion entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou la réunion de la liaison frontalière BLM en 2017 est suivi par 70 membres des délégations des deux pays. La réunion a discuté du commerce entre les deux pays. Selon la présidente de la délégation indonésienne, Suzana Dewangai, dans la réunion de BLM 2017, les deux pays se sont engagés à améliorer le bien-être social, dans les zones frontalières des deux pays à travers la question du commerce qui implique les douanes, la quarantaine et la facilité de transport des biens et des services. Selon Susanna Dewangai, la question de la circulation des drogues est également incluse dans la discussion, de sorte que la supervision sera améliorée. Il y a un mémorandum d'accord étant préparé par les deux pays concernant le commerce qui n'attend que la signature. Il a été dit par Susanna à Sorong mardi. Le président de la délégation du gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, John Balavu, apprécie bien la coopération des deux pays dans le domaine du commerce. Selon lui, il n'y a pas encore d'exportation officielle des marchandises de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vers l'Indonésie, mais certains produits agricoles seront exportés vers l'Indonésie après le mémorandum d'accord. Le président Joko Widodo est parti de l'aéroport Halim Perdana Kusuma à Jakarta pour assister au sommet spécial de l'Organisation de coopération islamique, OCI, tenu à Istanbul en Turquie le 13 décembre pour discuter des derniers développements dans la situation au Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne la Palestine. Lors d'un communiqué de presse, le président a déclaré que le sommet de l'OCI était une opportunité pour les États membres de l'OCI de rejeter fermement et conjointement la récente décision du président Donald Trump concernant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. À l'occasion du sommet extraordinaire de l'OCI, selon le président Joko Widodo, l'Indonésie transmettra également le refus du peuple indonésien de la décision de Donald Trump. En outre, l'Indonésie invitera également les États membres de l'OCI à collecter le vote pour défendre la Palestine.
Pada kesempatan tersebut, saya akan menyampaikan penolakan.
À cette occasion, je transmettrai les refus de l'Indonésie concernant la reconnaissance unilatérale des États-Unis et à demander au pays de l'OCI d'unifier la voix et l'unité pour défendre la Palestine. Et transmettre certaines mesures que nous pouvons prendre conjointement ou individuellement pour défendre les Palestiniens. Le président espère que la participation de l'Indonésie au sommet de l'OCI sera en mesure de contribuer aux efforts de la paix mondiale ainsi que le règlement du conflit palestinien et israélien. Le gouvernement indonésien participera au sommet de la Terre tenu à Paris en France le 12 décembre. Selon le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta, dans ce sommet, l'Indonésie sera représentée par la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, la ministre des Finances, Sri Mulyani, et le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Ignatius Jonan. La conférence est initiée par le président français Emmanuel Macron pour renforcer la volonté et l'engagement en faveur de l'accord de Paris sur le changement climatique. La participation du gouvernement indonésien au sommet de la Terre est une confirmation et l'encouragement de l'achèvement du processus de négociation, de la procédure et du cadre opérationnel de l'accord de Paris. En outre, le gouvernement indonésien souligne également ses réalisations et ses progrès dans la lutte contre le changement climatique en Indonésie. La Commission nationale pour l'UNESCO, le ministère indonésien d'éducation et de la culture ont tenu la réunion plénière de la fin de l'année 2017 à Jakarta lundi. Lors de la réunion, il a rapporté des réalisations d'Indonésie sur les programmes de l'UNESCO. En 2017, trois documents historiques indonésiens, à savoir Cerita Panji ou l'histoire de Panji, les archives de tsunami et les archives de Borobudur, sont reconnus par l'UNESCO comme mémoire du monde. Ces trois documents ajoutent la liste des richesses et des histoires de l'Indonésie qui ont été reconnues par l'UNESCO après le document précédent, à savoir Ila Galigo, Babat Diponegoro, Negara Kertagama et la Conférence Afro-Asiatique. En marge de la réunion plénière, Bambang Subianto, chef par intérim de l'IPI, expliquait qu'avec la reconnaissance de l'UNESCO, la préservation de ce document sera garantie. L'UNESCO a demandé que tous les documents soient numérisés sous forme électronique. C'est une forme de préservation pour que le document soit durable et que le document soit plus accessible. Donc, c'est l'un de nos objectifs de présenter au monde qu'il existe des documents importants sur notre culture. Bambang expliquait, avec la numérisation des documents, la jeune génération aura accès et reconnaîtra ces documents. Bambang expliquait, les archives de conservation de Borobudur ont été initiées par le Centre de la conservation de Borobudur. Ce patrimoine documentaire est le plus grand projet de conservation du XXe siècle et est le premier projet à utiliser des techniques modernes et la conservation des monuments. Le document sur l'histoire de Panji était proposé par la Bibliothèque nationale. L'histoire de Panji vient du XIIIe siècle sur la recherche de Panji pour son amant, la princesse Chandra Kirana. Pendant ce temps, les archives de tsunami de l'océan Indien ont été proposées par les archives nationales indonésiennes et le Sri Lanka. Conformément au décret présidentiel numéro 126 en 2001, le 13 décembre est désigné comme la fête nationale ou connue sous le nom la Journée de Nusantara 2017. Ce momentum est utilisé pour commémorer le succès de la diplomatie indonésienne pour que le principe des États insulaires internationalement reconnu par l'instrument de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS 1982. Cette reconnaissance était précédée par l'annonce de la déclaration Juanda le 13 décembre 1957. La déclaration est une décision d'unifier l'Indonésie en tant que pays archipel. Il est différent de ce qui est contenu dans le territorial Zi and Maritime Kringen Ordonanti 1939 qui définit les frontières territoriales indonésiennes séparément. La commémoration de la Journée de Nusantara aura lieu mercredi 13 décembre 2017 sur le quai Muara Jati, Cirebon, Jawa West. Le ministre de l'Intérieur, Cahyokumolo, a représenté le président Joko Widodo pour inaugurer l'événement. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs du titre du monde entier, voici le commentaire aujourd'hui en titre « Ici s'excite-t-il encore ?» Le samedi 9 décembre 2017 est une journée passionnante pour le peuple irakien. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a officiellement annoncé l'achèvement de la guerre contre l'État islamique ou l'ISIS. Après la guerre qui a duré 3 ans, al-Abadi a annoncé la fin de la guerre contre l'ISIS. Après les forces gouvernementales irakiennes, aidées par les forces américaines et les paramilitaires irakiens, et sécurisé la zone désertique près de la frontière syrienne. L'endroit connu comme la dernière poche d'ISIS. C'est une bonne nouvelle parmi les informations sur le conflit dans les régions du Moyen-Orient. ISIS, ou l'État islamique en Irak et en Syrie, a été déclaré en 2014 et bientôt contrôle une vaste zone en Irak et en Syrie. Pour prendre le contrôle des zones contrôlées par l'IL, l'Irak a attaqué avec des avions de combat américains. Les villes ont été recapturées par les forces gouvernementales irakiennes. La dernière zone qui a été prise en charge était la ville de Rawa le 17 novembre 2017. Cette ville est considérée comme la dernière base d'ISIS. Un expert d'ISIS, Hissam al-Hassemi, a dit qu'avec la chute de la ville Rawa, l'ISIS n'a plus de capacités militaires et administratives. Après la lutte contre l'ISIS est terminée, les forces paramilitaires qui avaient déjà participé à la guerre contre l'ISIS ont été dissoutes. Ces troupes paramilitaires ont persisté dans la lutte contre l'ISIS pour le bannier de la Force de Mobilisation Populaire, ou PMF, formé par l'ancien premier ministre Nouri al-Maliki. Au moins 120 000 membres se sont joints sous la bannière du PMF. Après la fin de la guerre en Irak, il faut reconstruire ce pays. Le ministre irakien de la planification, Salman Jumalili, a déclaré que l'Irak avait besoin de 100 milliards de dollars et de 10 ans pour reconstruire les bâtiments, les écoles, les hôpitaux endommagés et relancer l'économie. Bien que le pouvoir de l'ISIS en Irak soit terminé, il y a encore d'autres défis à résoudre, à savoir ISIS en Syrie. Espérons que la source de l'Irak dans la lutte contre l'ISIS est également suivie par la Syrie. Les pays islamiques, y compris l'Indonésie, doivent aider à mettre fin à la guerre et reconstruire l'Irak et la Syrie. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement historique qui a eu lieu le 13 décembre 1937, la fondation de l'agence de presse Antara. L'agence de presse Antara est la plus grande agence de presse en Indonésie, qui est semi-gouvernement, même quand il a été fondé pour la première fois par les journalistes nationalistes dans la période coloniale néerlandaise avant la Seconde Guerre mondiale. Il est entièrement une affaire privée. À ce moment, Antara a été fondé par A.M. Sipahutar, M. Sumanang, Adam Malik et Pandu Kartawiguna. Comme le premier directeur à l'époque était M. Sumanang et Adam Malik en tant que journaliste plus jeune ayant 17 ans. En 1962, Antara est officiellement devenue l'agence de presse nationale qui est directement sous le président de la République d'Indonésie. Mais le 18 juillet 2007, afin de profiter des occasions d'affaires et à envisager le défi de la convergence des médias, le gouvernement, sous la direction de Susilo Bambang Yudhoyono, a changé le statut de l'agence de presse Antara à être société publique. L'autre information est sur le MAT a devenu la République. Le MAT a atteint son indépendance le 21 septembre 1964 après d'intenses négociations avec la Grande-Bretagne menées par le premier ministre maltais George Bourke Olivier. En vertu de la Constitution 1964, la reine Elisabeth II, en tant que reine et chef de l'État de Malte, avec le gouverneur général, effectue le pouvoir exécutif en son nom. En 1971, le Parti travailliste maltais, dirigé par Dom Mintoff, remporte les élections, de sorte que Malte se déclare république le 13 décembre 1974 dans le Commonwealth avec le président à la tête de l'État. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Hari Nusantara ou le jour de l'archipel. Hari Nusantara ou le jour de l'archipel est une manifestation de la déclaration de Juanda qui est considérée comme la deuxième déclaration de l'indépendance indonésienne. Hari Nusantara est une affirmation et un rappel que l'Indonésie est le plus grand pays archipelagique du monde. À travers cette déclaration, l'Indonésie a tissé et réunifié à nouveau son territoire et sa vaste mer, unis dans une unité unifiée et souveraine. Par le décret présidentiel numéro 126 en 2001, le 13 décembre a été confirmé comme le jour de l'archipel. Cela signifie que chaque 13 décembre est commémoré comme l'an de la fête nationale. Serviteurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.com. www.awr.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Nous continuons notre programme avec la mise au point sur l'environnement et pour le titre, l'Indonésie célèbre la journée nationale de la plantation des arbres. Le président Joko Widodo a visité le village de Karangasem, Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta pour commémorer la journée nationale de la plantation des arbres et commencer officiellement le mois national de la plantation récemment. Après le lancement de la journée nationale de la plantation des arbres, le président a pressé les sirènes pour marquer le début du mouvement de plantation d'arbres et a continué en plantant des teks parmi les collines karstiques. Dans son discours, le président Joko Widodo a rappelé que la récente catastrophe survenue à cause des conditions météorologiques extrêmes devrait être utilisée comme un outil pour corriger les activités de culture de la terre qui ont été faites. Le président s'oppose aux événements cérémoniels en plantant des millions d'arbres qui coûtent beaucoup d'argent, mais les résultats ne sont pas visibles. Le président a souligné de superviser tous les travaux de ses subordonnés, y compris la plantation d'arbres. Le président veut que l'Indonésie est comme certains pays scandinaves qui peuvent devenir des pays riches par la vente seulement de bois. Dans son discours, la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a déclaré qu'on avait choisi cet endroit parce que c'est une montagne karstique critique. Selon elle, 45 000 arbres ont été plantés et 42 000 d'entre eux ont été plantés par la communauté sur une superficie de 15 hectares. Pendant ce temps, 3 000 autres arbres sont plantés par différentes couches de la société. La plantation d'arbres impliquera 3 000 agriculteurs et sera gérée par des coopératives. Siti Nurbaya explique que tous les semis plantés dans cette activité ont un code à barre contenant les coordonnées de l'emplacement et le nom de l'arbre. Les graines plantées comprennent le teck, l'acacia, le jambu-jambuan et les semis de jamblang. La ministre Siti Nurbaya a également expliqué que Gunung Kidul avait été choisi comme lieu de la journée de la plantation d'arbres parce que la terre est critique, sèche et roseuse et qu'il y a des habitats de singes à longue queue. Dans cet événement, on a également donné le prix à la zone qui a réussi à planter le plus d'arbres. Le premier gagnant a planté le plus d'arbres est la province de Sulawesi Central, suivi du Sud Kalimantan en deuxième place. Le troisième champion a été remporté par le nord de Sumatra. Le prix a été remis par la ministre des Forêts et de l'Environnement, Siti Nurbaya, en présence du président Joko Widodo. Serviteur, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir. On espère que le gouvernement indonésien pourra inviter les pays réunis à la conférence de haut niveau de l'Organisation pour la coopération islamique, OCI, a exhorté les Nations Unies à tenir une session spéciale sur l'action unilatérale des États-Unis qui prétend que Jérusalem est la capitale d'Israël. Le président Joko Widodo et son entourage se sont rendus à Istanbul, en Turquie, pour assister à la conférence de haut niveau spéciale de l'Organisation de coopération islamique mardi. On s'attend à ce que la présence du président Joko Widodo puisse encourager les États membres de l'OCI à apporter la reconnaissance unilatérale des États-Unis qui affirme que Jérusalem est la capitale d'Israël lors de la session extraordinaire des Nations Unies. Comme ce qui est déclaré par le vice-président de la Commission Ang du Parlement, Hanafi Raïs, à la voix d'Indonésie de RRI après le dialogue spécial sur la mise en œuvre du concert national dans la galerie de Tri Prasetya RRI Jakarta mardi.
Keberangkatan Presiden Jokowi ke Turki dalam rangka memenuhi undangan Presiden Erdogan.
Le départ du président Jokowi en Turquie pour répondre à l'invitation du président Erdogan en tant que président de l'OCI cette année est important et très pertinent pour le président. Le président va en Turquie avec un agenda clair, pas seulement de critique, mais je propose aussi que le président de l'Indonésie invite les États membres de l'OCI à tenir l'Assemblée générale des Nations Unies pour tenir une session extraordinaire d'urgence pour contester la décision unilatérale américaine jusqu'à ce qu'il puisse lever l'accord de résolution que les États-Unis devraient abroger sa décision. Hanafi Raïs, le membre du Parlement de la fraction de Parti Amanat National ou PAN, a également expliqué que le président Joko Widodo avait promis devant des dizaines de pays membres de la conférence de haut niveau Asie-Afrique qui a eu lieu à Bandung, Java de l'Ouest en 2015. Il a dit que les pays d'Asie-Afrique avaient encore de la dette pour libérer la Palestine. Alors, selon Hanafi, quand le président américain Donald Trump déclare Jérusalem comme capitale d'Israël, il faut s'y opposer car cela pourrait perturber la libération de la Palestine comme un pays indépendant. L'ordre du jour annuel de la réunion entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou la réunion de la liaison frontalière PLM en 2017 est suivi par 70 membres des délégations des deux pays. La réunion a discuté du commerce entre les deux pays. Selon la présidente de la délégation indonésienne, Suzana Dewangai, dans la réunion de BLM 2017, les deux pays se sont engagés à améliorer le bien-être social dans les zones frontalières des deux pays à travers la question du commerce qui implique les douanes, la quarantaine et la facilité de transport des biens et des services. Selon Suzana Dewangai, la question de la circulation des drogues est également incluse dans la discussion, de sorte que la supervision sera améliorée. Il y a eu un mémorandum d'accord étant préparé par les deux pays concernant le commerce qui n'attend que la signature. Il a été dit par Susana à Sorong mardi. Le président de la délégation du gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, John Balavu, apprécie bien la coopération des deux pays dans le domaine du commerce. Selon lui, il n'y a pas encore d'exportation officielle de marchandises de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vers l'Indonésie, mais certains produits agricoles seront exportés vers l'Indonésie après le mémorandum d'accord. Le président Joko Widodo est parti de l'aéroport Halim Perdana Kusuma à Jakarta pour assister au sommet spécial de l'Organisation de coopération islamique, OCI, tenu à Istanbul en Turquie le 13 décembre, pour discuter des derniers développements dans la situation au Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne la Palestine. Lors d'un communiqué de presse, le président a déclaré que le sommet de l'OCI était une opportunité pour les États membres de l'OCI de rejeter fermement et conjointement la récente décision du président Donald Trump concernant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. À l'occasion du sommet extraordinaire de l'OCI, selon le président Joko Widodo, l'Indonésie transmettra également le refus du peuple indonésien de la décision de Donald Trump. En outre, l'Indonésie invitera également les États membres de l'OCI à collecter le vote pour défendre la Palestine.
Pada kesempatan tersebut, saya akan menyampaikan penolakan.
À cette occasion, je transmettrai les refus de l'Indonésien concernant la reconnaissance unilatérale des États-Unis et à demander au pays de l'OCI d'unifier la voix et l'unité pour défendre la Palestine. Et transmettre certaines mesures que nous pouvons prendre conjointement ou individuellement pour défendre les Palestiniens. Le président espère que la participation de l'Indonésie au sommet de l'OCI sera en mesure de contribuer aux efforts de la paix mondiale ainsi que le règlement du conflit palestinien et israélien. Le gouvernement indonésien participera au sommet de la Terre tenu à Paris en France le 12 décembre. Selon le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta, dans ce sommet, l'Indonésie sera représentée par la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, la ministre des Finances, Sri Mulyani, et le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Ignatius Jonan. La conférence est initiée par le président français Emmanuel Macron pour renforcer la volonté et l'engagement en faveur de l'accord de Paris sur le changement climatique. La participation du gouvernement indonésien au sommet de la Terre est une confirmation et l'encouragement de l'achèvement du processus de négociation, de la procédure et du cadre opérationnel de l'accord de Paris. En outre, le gouvernement indonésien souligne également ses réalisations et ses progrès dans la lutte contre le changement climatique en Indonésie. La Commission nationale pour l'UNESCO, le ministère indonésien de l'éducation et de la culture ont tenu la réunion plénière de la fin de l'année 2017 à Jakarta lundi. Lors de la réunion, il a rapporté des réalisations d'Indonésie sur les programmes de l'UNESCO. En 2017, trois documents historiques indonésiens, à savoir Cerita Panji ou l'histoire de Panji, les archives de tsunami et les archives de Borobudur, sont reconnus par l'UNESCO comme mémoire du monde. Ces trois documents ajoutent la liste des richesses et des histoires de l'Indonésie qui ont été reconnus par l'UNESCO après le document précédent, à savoir Ila Galigo, Babat Diponegoro, Negara Kertagama et la Conférence Afro-Asiatique. En marge de la réunion plénière, Bambang Subianto, chef par intérim de l'IPI, expliquait qu'avec la reconnaissance de l'UNESCO, la préservation de ce document sera garantie.
Karena yang diminta UNESCO itu adalah semua dokumen itu harus didigitalisasi sehingga dalam bentuk elektronik.
L'UNESCO a demandé que tous les documents soient numérisés sous forme électronique. C'est une forme de préservation pour que le document soit durable et que le document soit plus accessible. Donc, c'est l'un de nos objectifs de présenter au monde qu'il existe des documents importants sur notre culture. Bambang expliquait, avec la numérisation des documents, la jeune génération aura accès et reconnaîtra ces documents. Bambang expliquait, les archives de conservation de Borobudur ont été initiées par le Centre de la conservation de Borobudur. Ce patrimoine documentaire est le plus grand projet de conservation du XXe siècle et est le premier projet à utiliser des techniques modernes et la conservation des monuments. Le document sur l'histoire de Panji était proposé par la Bibliothèque nationale. L'histoire de Panji vient du XIIIe siècle sur la recherche de Panji pour son amant, la princesse Chandra Kirana. Pendant ce temps, les archives de tsunami de l'océan Indien ont été proposées par les archives nationales indonésiennes et le Sri Lanka. Conformément au décret présidentiel numéro 126 en 2021, le 13 décembre est désigné comme la fête nationale ou connue sous le nom la Journée de Nusantara 2017. Ce momentum est utilisé pour commémorer le succès de la diplomatie indonésienne pour que le principe des États insulaires internationalement reconnu par l'instrument de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS 1982. Cette reconnaissance était précédée par l'annonce de la déclaration Juanda le 13 décembre 1957. La déclaration est une décision d'unifier l'Indonésie en tant que pays archipel. Il est différent de ce qui est contenu dans le territorial Zee en Maritime Kringen Ordonanti 1939 qui définit les frontières territoriales indonésiennes séparément. La commémoration de la Journée de Nusantara aura lieu mercredi 13 décembre 2017 sur le quai Muara Jati, Cirebon, Jawa West. Le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, a représenté le président Joko Widodo pour inaugurer l'événement. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons l'alimentation typique du sud de Sulawesi. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de la Voix d'Indonésie, le service international de RRI, soit sur ondes courtes, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. La province du sud de Sulawesi a divers aliments typiques qui ont été capables de survivre longtemps et de devenir des légendes. L'ando est la soupe à la langue de la Moro. La recette de la cuisine est de génération en génération. Selon les gens locaux, la soupe de la langue Lamoureux est bien connue depuis 50 ans. La soupe a un fort arôme. La soupe qui contient des morceaux de viande, de vache et la langue a plutôt clair et légèrement épais. En outre, la soupe peut également être ajoutée avec des nouilles de riz, du céleri et des oignons frites. Il y a aussi une autre cuisine typique à Makassar qui est plus populaire, à savoir choto et palubasa. La soupe à la langue Lamoro en coupe d'œil est similaire à choto et palubasa. La différence est dans le bouillon. Le bouillon de choto et palubasa est plus épais avec une couleur plus foncée, tandis que le bouillon de soupe de langue Lamoro est plus clair et riche en épices. Pour manger la soupe à la langue Lamoureux, vous pouvez commencer par siroter le bouillon de soupe. Il est délicieux et savoureux avec l'arrosage des oignons frites et des tranches de feuilles de céleri qui est riche en épices. Après cela, vous pouvez goûter le plat principal de la nourriture, à savoir la langue et la viande. La texture de la langue et de la viande de la soupe est très douce. Son goût est si délicieux parce que ces épices se fondent dans la langue et la viande. Serviteurs, si vous êtes intéressé à la nourriture typique de Makassar, nous vous suggérons de visiter sur Jalan Lamoureux, où vous trouverez un étal qui vend de la soupe à la langue, Lamoureux. L'étal ouvre à partir de 9h, heure locale, jusqu'à la nuit. Pour profiter de la soupe, vous ne payez que 30 000 roupiahs par portion. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La soupe à la langue de Lamoureux ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Serviteurs et auditrices, où que vous soyez, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est teman baru ou on dit en français nouvel ami. Allons-y. Serviteur, je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et des expressions par rapport au thème aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois et vous répéterez après. Teman baru, en français, nouvel ami. Lihat, lihat, en français, regardez. Gadis, gadis, en français, fille. Berbaju merah, en français, t-shirt rouge. Membawa, membawa, en français, porter. Biola, biola, en français, violon. Kelas berapa? Kelas berapa? En français, quel class? Sekolah di mana? Sekolah di mana? En français, quel lycée? Hobi, hobi, en français, aimer. Bermain gitar, bermain gitar, en français, jouer de la guitare. Diperkenalkan en français, présenter. Baiklah, en français, d'accord. Bon, maintenant, on va mettre ce vocabulaire et expression dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Andy A et Danou B par téléphone. A. Danou, siapa itu? Je répète. Danou, siapa itu? En français. Danou, qui est-ce? B. Yang mana Andy? Yang mana Andy? En français. Qui Andy? A. Gadis berbaju merah yang membawa gitar. Gadis berbaju merah yang membawa gitar. En français, la fille avec la chemise rouge porte une guitare. B. Oh, dia teman baruku Andy. En français, oh, elle est ma nouvelle amie Andy. A. Dia kelas berapa? En français, quelle classe a-t-elle? B. Classe 2 SMA. En français, la deuxième année au lycée. A. Sekolahnya di mana? En français, quel lycée? B. SMA Negeri 8. En français, lycée d'État 8. A. Apa hobinya bermain gitar? En français, elle aime jouer de la guitare? B. Iya, hobinya sama denganku, main gitar. Je répète, iya, hobinya sama denganku, main gitar. En français, oui, elle aime jouer de la guitare comme moi. A. Oh, begitu, boleh dikenalkan padaku? Oh, begitu. Boleh dikenalkan padaku? En français, je vois, tu peux la présenter à moi. B. Ya, boleh. Mari saya kenalkan. Ya, boleh. Mari saya kenalkan. En français, bien sûr, viens ici, on fait la connaissance. A. Baiklah, terima kasih. En français, d'accord, merci. Serviteur, voilà cette édition Apprendre l'Indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Nous vous referons demain avec un sujet différent. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Ces auditeurs et auditrices de RRI Service International de la Voix de l'Indonésie, où que vous soyez, on se retrouve encore dans la rubrique magazine musical, un programme qui vous présente les chansons indonésiennes traditionnelles et modernes. Restez toujours avec nous dans les ondes de courte 900-200 kHz ou par audio streaming de www.voi.co.id ou par l'application Replay dans votre smartphone. Dans cette édition, La Voix de l'Indonésie vous présente des chansons pop d'une chanteuse, Lala Carmela. Ses amis, une chanson qui s'appelle Kamu Aku Cinta ou en français Toi, Moi, Amour. Sera là pour commencer notre raconte aujourd'hui. Bonne écoute.
Selama dunia berputar, cintaku takkan pernah memudar padamu, oh.
Chers auditeurs, voilà une chanson « Toi, moi, amour » chantée par une chanteuse dont le nom complet est Mudayatri Heradura Kartodirjo. Avant d'être une chanteuse, cette fille étant née le 2 avril 1985 à Bandung, était actrice dans plusieurs séries télévisées au début des années 2000. Enfin, en 2004, elle a rejoint le monde musical avec un groupe qui s'appelait Inertia. En 2006, elle est partie au pays natal de sa mère, les Philippines, et elle y continue sa carrière musicale avec le nom Lala. C'est aussi aux Philippines que Lala a sorti son premier album officiel, dont le titre est Stars. Ses amis, écoutons une autre chanson toujours par Lala Camera, dont le titre est Satudiam Saya, ou en français, Juste une heure. Bonne écoute.
Jangan berakhir, aku tak ingin berakhir. Satu jam saja.
besok takkan lagi satu jam saja.
Nous sommes encore dans le programme magazine musical avec une chanteuse, Lala Carmela. Je n'ai jamais appris, après avoir passé 4 ans aux Philippines, elle est retournée en Indonésie pour continuer sa carrière musicale en collaboration avec des chanteurs célèbres comme Elo, Ipan et Berry de Saint-Loco. Elle a sorti une chanson qui s'intitule « Buka Semangat Baru » ou en français « Ouverture d'un nouvel esprit ». Dans la même année, elle a sorti son deuxième album en s'intitulant Kamu Aku Cinta, dont le single avec le même titre a été là, dans le début de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est aussi avec cet album qu'elle a changé son nom de Srin à Lala Carmela. Les amis, jusqu'en 2017, Lala Carmela a déjà sorti 10 singles et 4 albums pour sa musique. Cependant, en train de faire de la musique, elle est encore active comme actrice dans plusieurs films indonésiens comme Celeb Kota Yogya 2008, Nganas 2015 et Buka en 2017. Les amis, on arrive à la fin de ce programme et pour mettre fin à cette édition de Magazine Musical, je vous présente deux autres chansons de Lala Carmela intitulées Pour l'éternité. Écoutons ces chansons ensemble. Merci beaucoup de votre présence. Bonne écoute et au revoir.
kehadiranmu menghangatkan hati, senyumanmu selalu ku nanti, diri ini telah menjadi milikmu dan dirimu sempurna.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter, Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.